Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Législative au Mali, comment réussir des élections inclusives et crédibles? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Zoumananti Doumbia qui représente la majorité présidentielle, Nuhum Togo est là pour représenter l'opposition et Dr Ibrahim Sango est là en tant que président de l'Observatoire des élections. Je suis Mouhamadou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le premier tour des élections législatives se tiendra le 29 mars prochain et le second tour est prévu pour le 19 avril 2020. C'est le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, mercredi 22 janvier 2020, qui l'a annoncé. Zoumananti Doumbia, est-ce que ces élections pourront réellement se tenir le 29 mars, notamment le premier tour?
Vous savez, quand on tient compte des résolutions du dialogue national inclusif, qui a permis la participation d'une bonne partie de la population malienne, il a été demandé de renouveler l'Assemblée nationale. Et donc, pour en tout cas, mettre en œuvre en tout cas, cette résolution, le gouvernement est dans son plein droit, dans son devoir, de pouvoir organiser, en tout cas, proposer l'organisation des élections pour pouvoir renouveler l'Assemblée nationale, dont le mandat prend fin le 2 mai 2020.
Vous êtes également député à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ces dates sont tenables?
Vous savez, l'organisation des élections, c'est le rôle régalien du gouvernement. Et je pense que le gouvernement, en annonçant en tout cas, les élections, a même à bien évaluer. Et je pense qu'il est dans son bon droit, après l'évaluation, que d'annoncer les élections pour le 29 mars.
29 mars et 19 avril 2020. Certains partis politiques émettent déjà des réserves sur la bonne tenue de ces élections. Est-ce votre cas, non?
Nous avons des inquiétudes pour l'organisation crédible de l'élection, parce que vous savez, nous avons reporté les élections deux fois, compte tenu des problèmes d'insécurité sur le plan national, et en même temps, il y a eu aussi des problèmes de toilettage des fichiers. Nous avons tiré aussi des constats après les élections présidentielles qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Tout ce qui est domaine de la loi, il fallait trouver la solution entre nous pour qu'on en discute, pour tirer la situation au clair, pour que nous puissions aller très vite. Mais nous avons des doutes, mais il faut que ça soit très clair dans l'esprit des autres. Nous allons participer aux élections, nous n'allons pas faire de faux fuyants, mais il y a des problèmes très sérieux. Nous pensons que ça sera très difficile donc, pour organiser une élection avec crédibilité et la reconnaissance sur le plan national et international.
Problèmes très sérieux comme lesquels?
Le problème des fichiers, le problème de procuration. Vous savez, nous avons remarqué, je pense que Sango est bien placé pour intervenir dans ce cas. Ce qui s'est passé en Songo avec des procurations de petits villages comme Tessit, des gens qui ne dépassent pas, la population ne dépasse pas 200 personnes, mais on a eu plus de 6 000 votants. Donc ça pose problème. Donc la fiabilité des élections, les résultats posent problème. Et l'administration aussi, si ce n'est pas au Mali, comme vous le savez, comme le dialogue a demandé de mettre des structures normalement uniques pour l'organisation des élections. On n'a pas fait ce travail-là. Il me semble que le gouvernement veut rester avec les 147 députés, donc ça n'évolue pas. Et les textes aussi, je pense réellement qu'ils n'ont pas aujourd'hui l'intention de réviser un peu pour mieux organiser et mieux cadrer.
D'accord. Docteur Ibrahim Sango, en tant que représentant de la société civile au compte de l'Observatoire des élections, quel est votre point de vue sur l'annonce de ces dates?
Merci beaucoup. Nous pensons que les élections doivent se tenir, comme le gouvernement l'a annoncé dernièrement. Parce qu'il y a eu deux reports dont nous n'avons pas été vraiment favorables. C'est des reports qui violent un peu l'esprit des lois en République du Mali, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi électorale, qui disent que le mandat des députés est de 5 ans. Et à chaque 5 ans, il faut que l'Assemblée nationale soit renouvelée de manière satisfaisante. Maintenant, il y a eu deux reports. Ça fait un an et demi que le mandat des députés a été reporté.
Et nous pensons qu'en organisant les élections actuellement, ça va faire revenir notre pays dans la voie idéale de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de faux fuyants là-dessus. On doit aller aux élections, que ce soit l'opposition ou la majorité, tout le monde doit aller aux élections. S'il s'agit de faire des réformes, les réformes n'ont pas pu être menées parce qu'il y a beaucoup de réformes qui étaient attendues, non seulement des réformes électorales, mais aussi les réformes institutionnelles. Mais par rapport aux réformes électorales, on n'a pas pris suffisamment de recul pour les faire. Sinon, il y a beaucoup à dire par rapport aux législatives qui s'annoncent. Nous, Togo vient d'évoquer quelques problèmes. Un exemple type, c'est que les 147 députés qui doivent être renouvelés au niveau de l'Assemblée nationale, c'est sur la base des recensements de 1996. Et là, la population du Mali était de 9 800 000 habitants. Aujourd'hui, en 2020, la population malienne est de 20 millions d'habitants. Donc, est-ce que les 147 députés vont représenter valablement le peuple malien? Ça, c'est des interrogations qu'on pose, mais il n'est pas aujourd'hui. On n'a pas le temps suffisamment pour refaire les réformes électorales pour aller aux élections. Il faut doter l'Assemblée nationale de députés légitimes, de députés légaux. Ça, c'est la priorité des priorités. Et après, les réformes, nous pensons, vont suivre.
On doit tenir ces élections, vous le dites, mais est-ce qu'on va s'attendre à des élections crédibles, inclusives?
Pour nous, il n'y a pas de problème qu'on n'aille pas à des élections crédibles. Et si la classe politique devrait être préparée il y a plus d'un an, plus d'un an et demi, il y a eu un report. Donc tout le monde doit se préparer à suffisance pour qu'on aille aux élections. Et la fixation de la date des élections n'est pas une nouveauté. Tout le monde devrait s'attendre à ça. On doit aller à des élections crédibles et transparentes sur l'étendue du territoire si tout le monde s'y met.
Ali Bali pose une question sur Facebook, Zoumanati Doumbia. Il demande, est-ce que vous êtes sûr, avec certitude, qu'on peut organiser les élections en mars, notamment à Mopti?
Je fais confiance au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui, en tout cas, a la clé d'évaluation des circonscriptions électorales. Et je pense que le gouvernement, le Premier ministre a reçu les gouverneurs et les préfets il n'y a pas très longtemps. Et je pense que c'est à la suite de ces évaluations-là que le gouvernement a annoncé les élections. Donc, je fais confiance totalement au gouvernement parce que si il n'y avait pas les conditions minimales d'aller aux élections, je ne pense pas qu'on aurait dû annoncer. Mais qu'à cela ne tienne, Togo a soulevé des questions, mais je pense que malheureusement, l'opposition a brillé par son absence au niveau du dialogue national inclusif. C'était le lieu idoine, en tout cas, de pouvoir annoncer ces différentes...
Il y a une partie de l'opposition qui a participé.
Ok, oui, mais la partie que nous, Togo, représente n'a pas participé. Et donc, je pense que c'était le lieu idoine, en tout cas, de pouvoir faire part de ses appréhensions. Et je suis d'accord que il y a des choses à régler dans la loi électorale, mais ce n'est pas de grandes choses qui peuvent entacher les élections. Si je prends par exemple la désignation des assesseurs, en fait ça pose problème parce que on va aller aux élections législatives. Souvent il y a des listes où vous allez trouver la majorité et l'opposition sur une même liste. Et maintenant comment choisir les assesseurs? Mais je pense que la classe politique dans son ensemble, quand on va se mettre ensemble, on va trouver, ça c'est des choses qu'on peut quand même régler. Sans pour autant que ça ne donne lieu.
Quand on va se mettre ensemble, mais est-ce possible que cette classe politique.
Mais je pense qu'aujourd'hui, la classe politique, aujourd'hui, dans son entièreté, veut aller aux élections, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition. Je suis heureux d'entendre mon ami Togo dire que, en tout cas, ils vont participer, et ils vont participer pleinement. Donc, au-delà de ça, vous comprenez aisément que toute la classe politique est d'accord aujourd'hui qu'on aille aux élections. Ça permettra. Là où je ne suis pas d'accord avec. Docteur
Sango,
c'est lorsque on dit que les députés, l'Assemblée actuelle n'est pas légale. On peut peut-être, entre guillemets, parler de légitimité, mais il y a légalité. Et je pense que la légitimité n'est autre chose que quand les gens se mettent ensemble. Et donc, les conditions n'ont pas permis à ce qu'il y ait le renouvellement de l'Assemblée. Et aujourd'hui, si on doit y aller, je pense qu'il est grand temps qu'on y aille. Comme ça, ça évite toutes les supputations. Dire que l'Assemblée aujourd'hui est illégitime, l'Assemblée est illégale, ça va couper court à tout ça.
Donc, l'aspect sécuritaire inquiète Nuhum Tugu et vous estimez qu'aujourd'hui, vous faites confiance au gouvernement quant aux mesures qui seront prises pour y faire face. Mais qu'est-ce qui vous rend aussi confiant?
Vous savez, je suis optimiste. Je pense que les élections, c'est encore le 29 mars. Et je suis assez optimiste et je suis un oiseau de bon augure. Je pense que d'ici là, il y aura une vraie montée en puissance en toi de nos forces de défense. Déjà, on a senti une montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Mais nous avons les partenaires aussi qui pourront aider en toi le Mali à sécuriser ses élections, que ce soit à Mopti ou que ce soit partout ailleurs.
Êtes-vous rassuré? Êtes-vous aussi optimiste que M. Doumbia?
Non, en toute honnêteté, non, pour ne pas être en porte-à-faux avec ma conscience. Ce que je sais qu'aujourd'hui, à Bankas, à Kourou, à Douanza, à l'intérieur du Mali, vers Gao, c'est que l'administration n'existe pas. Les préfets, les sous-préfets se trouvent au niveau des cercles aujourd'hui. Et au niveau de l'aspect sécurité, à Kourou, je viens d'avoir un bilan macabre de plus de 11 abattus. Donc aujourd'hui, en termes de sécurité, ça pose problème. Ça pose problème. Maintenant, est-ce que, parce que effectivement, après le dialogue, la priorité a été donnée à l'organisation des élections. Moi, je pensais que la priorité allait être donnée à l'envoi de l'administration sur le terrain avec les militaires pour s'installer d'abord et créer les conditions pour aller vers les élections. Mais ils ont mis les chariots avant les bœufs, donc la situation, je ne sais pas comment ils vont gérer. Si le ministre de l'administration territoriale, après avoir rencontré les gouverneurs à Kidal, ils disent qu'ils sont prêts à aller aux élections, à Gao, ils sont prêts à aller, à Mopti, le gouverneur dit qu'il maîtrise la situation, mais lui-même, il ne peut pas se déplacer pour aller à Kourou ou aller faire quelques jours à Bankas. Comment voulez-vous que je sois rassuré? Peut-être pour ne pas être en porte-à-faux avec ma conscience, je ne crois pas que réellement aujourd'hui il peut valer. Mais néanmoins, nous allons aller au
cas. Le gouvernement estime que le dispositif qui a été mis en place lors de l'élection présidentielle sera renforcé. Est-ce que cela vous rassure?
J'ai eu la chance de travailler dans un gouvernement 10 ans. Je sais, donc, en même temps, un ancien conseiller du ministère de la Défense. Donc, je connais, c'est la chose que je maîtrise un peu. Mais je dis aujourd'hui.
Donc, ça a toujours été comme ça?
Non, je dis, je maîtrise. Nous avons toujours organisé des élections, mais je dis aujourd'hui, avec la crise, c'est que ça pose problème. Les partenaires, est-ce que ça veut dire même que nos amis de la CEMA sont sincères avec nous? S'ils sont sincères, est-ce que c'est un complot qu'ils ont voulu? Est-ce qu'ils sont tombés après avoir accepté de discuter avec le gouvernement des compromissions? Sinon, aujourd'hui, c'est eux qui sont opposés à tout moment. Et aussi, je vois des flux, des touristes avec des images où je suis franchement inquiet de ce qui se passe aujourd'hui. Et toujours, nos camps sont attaqués, les villages sont attaqués, l'armée ne riposte pas, les autorités ne sont pas capables d'assurer la sécurité des gens. Est-ce que c'est avec l'élection qu'ils vont assurer la sécurité des gens? Je ne le crois pas, en toute honnêteté.
D'accord. Et vous, docteur Ibrahima Sango, est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire à Mopti, à Kidal et dans les autres régions du Nord vont poser problème par rapport à l'organisation de ces élections?
Bon, si on se réfère à tout ce qui nous entoure, l'environnement national et international, la situation sécuritaire, parfois, est très dégradée, mais cela n'empêche pas la tenue d'élection. Et surtout pour l'élection des députés, la circonscription électorale, ce n'est pas le territoire national. Donc c'est les cercles, les communes. Et on a vu avec, en 2016, quand il s'est agi d'organiser l'élection des conseillers communaux, les élections ne se sont pas passées partout. Il y a jusqu'à présent des communes qui n'ont pas eu à faire l'élection.
Donc ça, c'est Monsieur Kourou estime également qu'il y a l'administration qui n'est pas présente dans certaines de ces communes.
J'ai dit les conseils communaux en 2016. Donc ça veut dire qu'il faut voir la circonscription électorale. Pour l'élection présidentielle en 2018, il y a des partis où il n'y a pas eu d'élection. Ça, on peut en convenir. Mais si on prend pour l'élection présidentielle en 2018, le pourcentage, le taux où il y a eu l'élection, on peut aller dans les 90%, 95%. Bon, cela est acceptable dans un pays en crise. Maintenant, pour l'élection des députés, le gouvernement dit qu'ils vont assurer la sécurité. Donc, on attend à ce que le processus soit vraiment sécurisé avant les élections, avant la tenue des élections, et qu'il y ait des élections sincères, crédibles. Maintenant, là où il ne pourra pas avoir d'élection, on va le constater. Dans tous les cas, on ne peut pas prévoir à l'avance est-ce que ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher.
Oui, vous aurez la parole tout de suite.
Oui, je dis, on doit aller à ces élections avec confiance et en ayant confiance au gouvernement qui, pour une fois, a suivi les résolutions du dialogue national inclusif pour organiser les élections, pour qu'on puisse retourner quand même dans ce qu'on appelle la démocratie légitime.
Je vous donne la parole tout de suite. Vous semblez ne pas être d'accord avec lui.
Législative n'est pas comme les autres élections. Ça se tient sous l'étendue du territoire national. Il ne peut pas avoir un député élu aujourd'hui, demain d'autres députés. Ce n'est pas possible.
Non, je suis d'accord.
Non, quelle que soit la situation, ouais. C'est que l'élection doit se faire sous l'étendue du territoire national. Si un député décède, on peut donc organiser les élections après. Mais ce cas-ci, c'est sur l'étendue du territoire national. C'est pour cela que nous disons que nous avons des inquiétudes.
Je suis d'accord, mais j'ai dit les circonscriptions électorales, c'est les cercles et les communes.
Je suis d'accord, nous n'avons pas de préfets et voilà. De sous-préfets.
À vous, Zoumananti.
Non, mais en fait, là où je suis d'accord avec Togo, c'est ça. En fait, la Constitution dit que l'Assemblée nationale est intégralement renouvelée. Il n'y a pas de renouvellement partiel. Donc, il faudrait que l'élection se tienne sur toute l'étendue. Et là où je le rejoins. En fait, quand il y a élection présidentielle, il peut ne pas y avoir d'élection dans certains endroits. Ça ne peut ne pas impacter sur l'ensemble des résultats. Mais en matière d'élection législative, c'est que la circonscription électorale est cercle. Imaginez-vous qu'à Koro, qui est sur 18 communes, qu'il n'y ait pas d'élection dans 6 communes. Ça pose des problèmes. Je pense que, mais qu'à cela ne tienne, je fais confiance au gouvernement. Parce que je me dis que en s'engageant dans l'organisation des élections, je pense que le gouvernement a évalué tous les risques possibles, a évalué la réalité sur le terrain et les dispositifs à mettre pour pouvoir sécuriser les élections. C'est en cela que je suis optimiste, parce qu'en s'engageant là-dedans, on sait à peu près ce qu'on doit faire pour pouvoir organiser sereinement et de façon inclusive et crédible les élections.
Justement, il y a Adama Ongoiba sur Facebook qui dit « Si l'État est capable de recouvrir tout le Mali pendant cette élection, pourquoi n'est-ce pas toujours le cas ?»
Vous savez, les élections, c'est un temps bien déterminé. Alors que toujours, c'est un temps lointain. Parce qu'on a vu, même avec nos forces de défense et de sécurité, c'est que souvent, on arrive à neutraliser les terroristes dans une zone, mais il faut que l'armée y reste constamment pour pouvoir sécuriser davantage. Mais malheureusement, il y a des problèmes d'effectifs à ce niveau-là. Donc, je pense que...
Mais pourquoi justement, pendant cette période électorale, il va y avoir un effectif suffisant, mais reste du temps, il n'y aura pas d'effectif
suffisant? Non, ce n'est pas seulement... En fait, il y a d'autres partenaires qui sont là, qui ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme. Comme la MINUSMA, par exemple. Je pense que la MINUSMA pourra déployer autant d'effectifs. Et aussi, il y a le DDR qui est en cours et les éléments DDRisés vont être mis sur le terrain dans un temps bien défini et dans un temps bientôt ils vont être opérationnels. Et tout ça là fonde à croire que le gouvernement pourra avoir le dispositif nécessaire pour pouvoir sécuriser les élections. Et je pense que ce serait un déclic pour permettre en tout cas la sécurisation de l'ensemble du pays. Tel est mon espoir et c'est comme ça que je pense.
Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Que le gouvernement, que les partenaires puissent mettre en place un dispositif pour sécuriser tout le pays pour les élections, mais que ça ne puisse pas être le cas pour toujours?
Une très belle question, mais la question que je me pose moi-même. Et s'il y a les élections, on va sécuriser, ça veut dire on veut sécuriser. Mais la population, elle est abandonnée depuis combien de temps? Qui demande seulement d'être sécurisé. Mais on n'arrive pas à le faire. Mais s'il y a les élections, on veut les sécuriser. On va amener l'administration, on va amener les militaires pour les sécuriser. Parce qu'il y a élection. Parce qu'on veut aller vers la révision constitutionnelle. Mais en réalité, aujourd'hui, ils souhaitent seulement qu'ils soient sécurisés. Donc, voulez-vous que je comprenne ça? Non, je ne comprends pas la réalité. Sur le terrain, parce que je suis de Bankass. Je vis la réalité tous les jours. À Koro, je vis la réalité tous les jours. À Bankass, à Banyagara, je vis la réalité. À Blanza, je vis la réalité. Je sais que le gouvernement a été toujours surpris. Les camps ont été attaqués, des camps militaires où il y a des bérets rouges. On a vu comment il y a eu des carnages. Alors donc, dire qu'ils ont les moyens, la technique, aujourd'hui la possibilité de protéger, je ne le crois pas. Mais on peut mettre un peu de doute. Doutons, rêvons.
Et il y a Adama Draman Berthe, M. Sango, qui demande comment le Mali pourra-t-il aller en élection avec le même fichier électoral frelaté?
Bon, frelaté, c'est un peu trop dire. Parce qu'on vient à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre, il y a eu la révision annuelle des listes électorales. Et là, c'est toutes les composantes de la classe politique qui ont participé pour pouvoir extirper tout ce qui n'est pas bon dans le fichier électoral. Les cas de décès, les radiations, les nouveaux majeurs qui doivent intégrer le fichier électoral. Donc c'est un travail préalable qui a été fait. Après le Chaque année, c'est prévu dans la loi électorale que du 1er octobre au 31 décembre, il y ait une révision annuelle des listes électorales. Donc, on ne peut pas dire que le fichier est frelaté, parce que les partis politiques sont en train de suivre aussi le travail sur le terrain et ils doivent voir que c'est un fichier qui peut être habilité à aller aux élections. Mais en plus de ça, il peut y avoir aussi une révision exceptionnelle décrétée par le gouvernement à l'approche des élections. Ça aussi, c'est possible pour encore parfaire le fichier électoral. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le fichier est frelaté. Ça a servi pour les élections de 2016, pour 2018, et puis en 2020, je pense que le même fichier peut être utilisé.
D'accord. Docteur Irwin Msango, est-ce que vous avez des informations par rapport à la tenue de ces élections au niveau des nouvelles régions?
Bon, honorable, là, c'est le président de la Commission de loi de l'Assemblée nationale. Je pense que ça, c'est des insuffisances qui sont perceptibles, parce qu'on n'a pas pu aller aux réformes. Je disais tantôt que si on prend le nombre de 147 députés, c'est à partir du recensement de 1996. Et là, le Mali était à 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Mali a 20 millions d'habitants. Donc, la loi organique n'a pas été revue à la hausse. N'a pas été revue. Et il y a aussi l'insuffisance de la loi 2012-018 du 2 mars 2012 qui a créé de nouvelles régions et qui a créé de nouveaux cercles. Quand on prend les régions de Tombouctou, Taoudéni, Gao, Menaka, Kidal, c'est de nouveaux cercles qui ont été créés. Et la loi électorale dit aussi que pour l'élection des députés, les exemptions électorales sont consultées par les cercles et les communes. Bon, si on prend ça, ça veut dire qu'il y aura plus de 147 députés qui devraient être élus en 2020. Mais tel n'est pas le cas parce que la loi organique n'a pas été modifiée. Je parle sous le couvert de l'Assemblée nationale. La loi organique n'a pas été modifiée. Donc, on reste toujours avec le ratio de 147 députés pour l'Assemblée nationale. Et cela n'est pas représentatif aujourd'hui du peuple malien.
Quelle va être la situation par rapport aux nouvelles régions?
Non, les nouvelles régions, en tout cas avec le dispositif qui existe, vont rester comme telles. Menaka restera cercle et Taoudéni sera toujours avec Tombouctou. Parce que Bougouni va rester toujours cercle, parce que c'est les résolutions du dialogue national inclusif qui a demandé à ce qu'on puisse aller avec le texte actuel et avec le nombre de députés actuels. Sinon, je suis d'accord avec Sango que ça devrait évoluer parce que quand on prend le ratio 60 000 habitants par député, aujourd'hui, quand vous prenez le cercle de Bougouni, que je connais bien, Bougouni a droit au moins à 6 députés aujourd'hui, 6 à 8 députés. Donc ça devrait s'augmenter. Et normalement, quand on prend aussi le fait que la circonscription électorale est cercle, et qu'il y a des cercles qui ont été créés, en principe, on devrait pouvoir pourvoir ces cercles-là en représentant. Mais malheureusement, bon, vous savez, quand il y a une bonne partie de la population qui vient, nous sommes très mal placés parce qu'on a l'impression que le dialogue national a été fait sur l'Assemblée nationale. Et même quand on veut exposer des choses, on a tendance à penser qu'on tire la couverture sur soi. Sinon, il aurait fallu, en tout cas, aller à toutes les réformes pour qu'il y ait plus d'équité et qu'il y ait plus d'égalité. Mais malheureusement, donc, on est en démocratie, la majorité a primé, et nous allons partir avec l'existant, et quitte, en tout cas, à faire les réformes après.
Nous allons partir avec l'existant, sinon vous êtes d'accord que 147 députés, comme le pense le docteur Sambo,
j'avais moi personnellement fait une proposition de loi pour pouvoir relire, modifier la loi organique portant, fixant le nombre de députés, le régime des incompatibilités, et des inéligibilités et des indemnités octroyées aux députés. Mais vous savez, le gouvernement m'a un peu bloqué parce que ça a des incidences financières, parce qu'à chaque fois que tu crées, en tout cas, de nouveaux sièges, ça a des incidences financières. Bon, on m'avait demandé de sursoir que le gouvernement est dans un vaste chantier de réformes et que dans les jours à venir, en tout cas, on allait aller vers la modification de la loi organique. Bon, étant député, si vous faites des propositions de loi et que ça a des incidences financières, vous ne pouvez pas expliquer où est-ce qu'on peut retirer les ressources pour pouvoir faire face. Donc, je n'avais d'autre choix que d'abandonner le projet. Sinon, en fait, il aurait fallu, en tout cas, relire aujourd'hui la loi organique fixant le nombre de députés et même opérationnaliser les régions pour que chaque cercle aient son représentant au niveau de l'Assemblée, et même les Maliens de l'extérieur, qu'ils puissent avoir, parce que moi je demeure convaincu que c'est un maillon essentiel de la vie de la nation malienne et qu'ils doivent être représentés à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse savoir quel est leur problème et que les choses puissent être gérées, aussi qu'ils puissent participer à la gestion du pays.
Un nombre de députés insuffisant pour représenter les Maliens pour les 5 prochaines années. Est-ce que vous trouvez cela normal?
Non, ce n'est pas normal. Je prends le cas de Tombouctou. Tombouctou est avec un député. L'histoire retient qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la population, comme il l'a dit, il y a des communes, même ici, en commune 2 ou commune 2, ça a beaucoup évolué. Alors donc, chez nous, à Banka, c'est la même chose. Donc, sous l'étendue du territoire national, il fallait revoir. Mais c'est ça aussi, les difficultés, parce que nous avons pris un an inutilement avec les deux reports. Au lieu de travailler, nous n'avons pas travaillé. On est resté donc se regarder au rétroviseur, chacun est resté couché chez lui à la maison. Et donc, or, il y avait beaucoup de travail à faire là-dessus.
Quand vous dites chacun, vous parlez de non, la majorité, la société civile.
Non, juste tout le monde.
C'est l'opposition qui a empêché.
Non, ce n'est pas nous. Mais il est facile de dire que c'est nous. Nous, on n'est pas, on ne gère pas le pays. Qui gère le pays?
C'était là à contester les résultats.
Non, j'ai dit néanmoins, on a reporté pour la première fois, on a reporté pour la deuxième fois. Le report, c'était très clair. Il fallait gérer l'aspect sécurité. Il fallait gérer les réformes. Mais le ministre de l'administration territoriale a le plaisir de voyager, de laisser les véritables problèmes sur la table, parce que ça ne les intéressait pas. Parce que nous, on s'attendait qu'avec les deux reports, on allait quand même travailler. Et le peuple malien s'attendait qu'on devrait travailler sur les deux reports. Mais les deux reports, on n'a pas travaillé, on a dormi. Alors donc aujourd'hui, moi je dis c'est même normal parce que Sango, lui, il veut qu'on aille vers les élections. Le gouvernement veut qu'on aille aux élections. Moi, si c'était moi, j'allais laisser le mandat terminer. Parce que dans l'histoire, on peut prendre le cas, ce qui s'est passé au Mali. Avec Modibo, il n'y avait pas l'Assemblée, ils ont continué. La loi C, comment ça se gère? Donc il n'y a pas de vide, on peut continuer. Le président peut gérer par ordonnance. Et en même temps, jusqu'au temps Modibo, Moussa Traoré, on a fait jusqu'en 1978, il n'y avait pas l'Assemblée nationale. La transition que nous avons gérée ici, avec le mouvement démocratique, il n'y avait pas l'Assemblée nationale. Mais nous avons géré le pays. Il fallait laisser couler 40 jours qui restent, quand nous allons travailler sur les 40 jours. Mais ça, on ne sera pas d'accord avec moi. Les 40 jours, on va mettre les textes et puis on révise les textes. Et on trouvera des consensus sur les textes et on organisera une très bonne élection crédible et appréciée par tout le monde.
Vous estimez qu'il n'y a pas eu de travail, mais M. Doumbia estime qu'aujourd'hui, lui, il a proposé une loi, mais il dit avoir fait face à des difficultés financières. Est-ce que vous pensez que ces difficultés financières sont une raison valable à ce que cette loi ne soit pas adoptée?
Le moment où le président de la République augmente son budget, donc sa caisse noire, avec un milliard et quelques, donc il sait très bien qu'on peut avoir l'argent. Non, j'ai vu la loi. Je viens d'entendre ce que vous êtes en train de faire.
Je sais
ce qui se passe. Vous continuez à augmenter les budgets par-ci, par-là. Pour des privilèges du gouvernement, il n'y a pas de problème. On a toujours les moyens de financer. Si c'est pour l'État, pour le plaisir, ça veut dire pour faire en sorte que l'État marche, ça veut dire la commodité pour la République, vous n'avez pas de budget. Mais pour des problèmes personnels, pour les persos, vous avez des budgets pour gérer cette situation. Souvent, c'est très grave. Mais sinon, on peut couper un peu au niveau de l'Assemblée nationale, on coupe un peu au niveau de la présence, on coupe un peu au niveau de la primature, le dossier est géré.
Quel est votre point de vue, Dr Ibrahim Assango? Je vous donne la parole tout de suite, M. Doumbia, sur cette question, par rapport à ce problème financier.
Bon, le problème financier... non, je voudrais revenir sur ce que Togo avait dit par rapport à l'Assemblée nationale. Pour dire qu'il faut balayer l'Assemblée nationale, si je résume un peu, il faut laisser l'Assemblée nationale et puis aller à autre chose. Mais le Mali n'est pas un village isolé, c'est un village planétaire. Alors, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine, il y a tout ça, toutes les entités qui sont là, et les instruments juridiques internationaux qu'on a ratifiés, qui disent qu'il faut aller des élections. Et c'est nous qui avons mis dans notre constitution qu'il faut aller des élections. Dans notre loi électorale, nous avons dit qu'il faut aller des élections. Donc, il faut aller dans les élections. Mais là où je suis d'accord, c'est que les gens ont dormi pendant une année et demie. Au lieu de faire face aux vrais problèmes, on a fait de la diversion. Et je prends un exemple, c'est les concertations régionales. Les concertations régionales qui ont été tenues en 2018, qui n'ont jamais eu de suite parce qu'il n'y a pas eu une concertation nationale pour régler définitivement le problème du découpage administratif en République du Mali. Il y a aussi le dialogue national qui est venu. Et bon, il y a parlé, mais on revient à ce qu'il faut faire. Il faut organiser des élections. Parce qu'on a dit que chaque 5 ans, il faut organiser. On a mis dans notre constitution. Maintenant, si on ne modifie pas la constitution, il faut aller à des élections. Et on a perdu le temps parce que les réformes étaient indispensables. Et les réformes, 147 députés aujourd'hui, ça ne répond pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, le mode même de scrutin des députés, il faut revoir. Parce que si on prend le cercle de Kati, par exemple, qui a 7 députés, le cercle de Kati, il a 7 députés. Si une liste a 50,01% et une autre liste a 49,99%, c'est la liste qui a 50,01% qui passe, qui prend les 7 députés. Donc, quelque part, la légitimité de ces députés-là est sujette à caution. Donc, c'est des réformes qu'on devrait pouvoir réaliser avant aujourd'hui. Mais au lieu de faire face aux vrais problèmes, on les a laissés. Donc, c'est vraiment pénible de le dire aujourd'hui, mais on a perdu du temps pour rien. Et on revient à l'élection des députés avec 147 députés. Maintenant, par rapport au problème financier, bon, je ne suis pas tellement un financier, un expert en finance. Je pense que l'Assemblée nationale, à leur niveau, ils votent des lois et tout, sur la réalité du budget qu'on leur propose. Peut-être qu'Honora peut nous éclairer par rapport à ça.
Monsieur Sango et Monsieur Noung Togo parlent de négligence par rapport à des mesures qui devraient être prises pour que l'effectif au niveau de l'Assemblée nationale soit plus représentatif.
Non, mais je pense que chacun a sa part de responsabilité, parce qu'on a passé une bonne partie
l'opposition. Est-ce que cela veut dire que vous reconnaissez qu'il y a eu négligence?
Non, pas négligence peut-être, mais peut-être que l'aspect sécuritaire a pris le pas sur tout autre chose. Et je suis d'accord que l'aspect sécuritaire prime, parce que pour pouvoir aller à l'école, aller faire son commerce, faire des élections, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine sécurité. Mais il faut dire aussi qu'on a passé beaucoup plus de temps dans des tiraillements inutiles. On reconnaît les élections, on ne reconnaît pas, le président est légitime. Donc ça a fait qu'on s'est diverti nous-mêmes. Et au lieu d'aller à l'essentiel c'était quoi? Au sortir des élections, mettre les élections derrière, nous attaquer aux vrais problèmes. Mais on ne l'a pas fait, malheureusement. Mais par rapport à l'aspect financier, le budget de l'Assemblée n'a pas augmenté d'un seul franc. Et le budget de la présidence n'a pas augmenté d'un seul franc. Donc, à l'intention
de... Est-ce que ces deux budgets ont été réduits également?
Le budget de la présidence a été réduit un peu, mais le budget de l'Assemblée a été reconduit comme pour l'année dernière. Donc,
malgré les difficultés financières.
Non, mais en fait, depuis combien d'années le budget de l'Assemblée n'a pas bougé parce que, malgré que l'Assemblée a une autonomie financière, normalement, le budget de l'Assemblée est annexé. Mais ce n'est pas le cas au Mali. On passe toujours par l'arbitrage budgétaire et le ministre des Finances vient parler, en tout cas, dire les contraintes financières qui existent. Et c'est en fait sur la base de ça que le budget de l'Assemblée reste intact. Mais vous pensez que si on devrait aller au-delà de 147 députés, le budget de l'Assemblée allait forcément augmenter? Mais vous savez, au Mali, il y a l'anti-parlementarisme qui prend tellement le pas. Quand vous ajoutez un franc, alors qu'on demande beaucoup plus aux députés, mais quand on veut donner un franc aux députés, les gens oublient qu'on ne peut pas faire certaines actions sans ressources financières. Mais quand vous ajoutez un franc, les gens commencent à crier. Bon, je comprends, mais je demande, en tout cas, j'aurais bien voulu que tous ceux-là qui critiquent les députés, qu'ils soient à l'Assemblée, comme cela, pour qu'on les voit à l'œuvre. Comme ça, ils sourront. Maintenant, pour revenir à la question...
Parlez-nous du chronogramme de ces élections aujourd'hui. Comment ces élections vont se tenir, vont s'organiser?
Bon, je pense que le 13 février, ce sera la date limite de dépôt des candidatures. Et le 8 mars, la campagne va s'ouvrir pour prendre fin le 27 mars à minuit. Et voilà. Donc le deuxième tour, ce serait après la proclamation officielle des résultats, parce qu'on ne pourra pas se prononcer tant que la Cour constitutionnelle n'a pas, en tout cas, validé les résultats. Et voilà un peu. Mais maintenant, on ne peut pas laisser une république démocratique sans assemblée. Vous avez pris des cas, c'est malheureusement pour moi, c'est des mauvais exemples, parce qu'ils n'étaient pas en démocratie au sens propre du terme.
Et en tant qu'acteur de la démocratie.
Voilà.
Et
je suis très, très, très à l'aise face à quelqu'un qui s'est battu, en tout cas, en 91 ici, pour l'avènement de la démocratie.
Et donc, est-ce que vous pensez que la grogne sociale aujourd'hui, notamment la grève des enseignants, peut constituer un blocage quant à la tenue de ces élections?
Bon, vous savez, il y a au moins, pour les acteurs qui organisent les élections, les anciens sont impliqués au moins à plus de 50%. Ils sont les présidents des bureaux de vote, ils sont les assesseurs, ils sont quand même impliqués. L'inquiétude que j'ai même à l'intérieur, par exemple dans le Gourmand, avec la fermeture des écoles, c'est que ça pose problème aujourd'hui. Les écoles ont été fermées, les classes ont été, les bancs ont été brûlés, donc il y a des problèmes très sérieux. Mais tout ça, c'est l'aspect sécurité. Parce que ça amène en termes de sécurité, d'organisation sécuritaire. C'est pour cela que je dis que j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes.
Sango, par rapport à deux couches, les jeunes et les femmes, aujourd'hui, leur implication, leur place, leur participation à ces élections, est-ce que vous pensez que ça a été suffisamment pris en compte?
Si on se réfère à la loi électorale, toute liste de députés qui sera soumise pour compétir doit comporter au moins 30% de l'un ou l'autre sexe. On dit même 70% de l'un ou l'autre sexe. Donc ça veut dire que les femmes sont prises en compte. Et cela répond à la loi sur le genre qui a été promulguée par le président République en 2015 et qui est revenue dans la loi électorale à partir de 2016. Donc le problème des femmes est pris en compte de manière satisfaisante dans la loi électorale. En tout cas par rapport à la loi 052 qui institue le pourcentage de 30% de l'un ou l'autre sexe pour toute liste. Maintenant, par rapport aux jeunes, ça il revient aux partis politiques, aux jeunes eux-mêmes de se battre pour être sur les listes qui seront fournies. Et là, je pense que la chance leur est aussi donnée. Il faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables d'être sur la liste électorale.
D'accord. Vous êtes également tous les deux responsables de partis politiques. Quelle est la place que vous allez donner aux jeunes, notamment dans vos différents partis politiques et aux femmes également?
Vous savez, tout ce qui s'actuelle facilement, c'est tchol.
C'est-à-dire, expliquer.
Ça voudrait dire qu'il faut travailler dur pour mériter. Et je pense que c'est ce qui est demandé.
Est-ce que vous pensez que les jeunes et les femmes travaillent dur pour pouvoir mériter cette place?
Bon, les femmes et les jeunes doivent pouvoir travailler dur. On ne doit pas prendre quelqu'un.
Mais est-ce qu'ils le font, selon vous?
Oui, je pense bien qu'ils le font.
Mais pourquoi ils estiment, certains d'entre eux, ne pas être suffisamment pris en compte?
Bon, je pense que, à mon avis, vous savez, la femme dans notre pays, il y a une pesanteur sociale qui pèse beaucoup. Les hommes résignent à permettre à leur femme de faire de la politique. Et quand une femme fait de la politique aussi, elle est regardée, elle est vue d'une autre manière. Mais je pense que le plus important, c'est la scolarisation des filles. J'ai toujours dit.
Mais est-ce que l'Assemblée nationale a posé des actes qui peuvent faire changer cette mentalité, par exemple?
Oui, mais bien sûr que oui. La loi sur le genre que Sango vient de souligner, l'œuvre de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a voulu que toutes les couches de la nation. Parce que l'un des problèmes de notre pays, c'est que tout le monde ne participe pas à la gestion du pays. Il faudrait faire en sorte que tout le monde y participe. En tout cas, ceux qui veulent. Parce qu'on ne va pas aller forcer aussi quelqu'un à venir s'intéresser à la gestion du pays.
Et qui devrait faire ça?
Oui.
Qui devrait faire ça?
Mais ça, c'est les partis politiques. Ça, c'est... On donne de l'argent à nos partis pour pouvoir faire de l'animation politique, pour pouvoir faire de l'éducation, pour pouvoir faire de la sensibilisation.
Donc vous remettez en cause le rôle des partis politiques dans la sensibilisation.
Les partis politiques n'ont pas joué suffisamment leur rôle sur ce plan-là, et je dois l'avouer. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, nos partis sont interpellés pour permettre, en tout cas, l'émulation d'une bonne partie de la population à s'intéresser à la gestion publique.
Certains regrettent qu'aujourd'hui, que ce soit la majorité ou l'opposition, les partis politiques ne jouent pas réellement leur rôle pour sensibiliser notamment les Maliens à voter pour leur candidat de choix.
Vous savez, je dis que forcément, c'est pas le rôle seulement des partis politiques. Mmh. C'est vrai que les partis politiques doivent jouer leur rôle.
Mais ils bénéficient d'argent pour justement jouer ce rôle.
Je suis d'accord avec vous, M. Touré. Mais il y a aussi, je l'ai dit, 90% ou 80% sont des gens qui ne font pas de la politique, ce qu'on appelle la société civile. Mmh. C'est eux aujourd'hui qui drainent tout le monde. Et c'est religieux, la société civile organisée. C'est eux aussi qui doivent sensibiliser. Parce que l'élection, ce n'est pas seulement pour les hommes politiques. Moi, je l'ai toujours dit. Je dis, j'invite tous ceux qui sont honnêtes, sincères, dignes, qu'ils viennent faire de la politique. Parce que si vous laissez des médiocres gérer, donc franchement, il y a toujours des problèmes.
On a un représentant de la société civile.
Mais qui travaille pour qu'ils deviennent. Parce que si on prend un médiocre ne va nommer qu'un médiocre.
Non, en fait, l'État subventionne les partis politiques pour pouvoir faire l'éducation civique et la sensibilisation.
On le fait.
Mais la société civile n'est pas subventionnée par l'État.
Sango.
Donc la société civile cherche l'argent avec des partenaires pour le faire. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a un problème de communication. Le problème de communication, c'est quoi? C'est qu'en République du Mali,
selon les statistiques de 2015, il y a 2 700 000 personnes seulement qui comprennent le français.
Ouais,
tout le reste, là, c'est les langues. Non, est-ce qu'on utilise assez les langues pour pouvoir communiquer?
J'interpelle la radio.
Pour pouvoir communiquer. C'est ça aussi le question qui est là, qui est difficile et sur laquelle tout le monde est interpellé.
Dans ce contexte d'insécurité, est-ce que vous pensez que le taux de participation à ces élections pourra être élevé au Mali comme à l'extérieur?
Bon, cela dépend de tout ce qu'on pourra faire, que ce soit les partis politiques, la société civile, l'État, les partenaires, en termes d'éducation civile, de sensibilisation. Parce que si on se réfère au taux de participation de 92, du début de la démocratisation en République du Mali jusqu'à en 2018, le taux n'a jamais atteint les 50%. En 2018, d'ailleurs, on a constaté que 75% des cartes d'électeurs ont été distribuées, mais on n'a pas atteint le taux de 50%. Donc, on n'a jamais atteint le taux de 50%. Et pour les élections, c'est une question d'éducation civique, de communication électorale que tout le monde doit s'investir pour pouvoir mener cela à bien. Non seulement les partis politiques, mais aussi la société civile. Et la société civile, elle se base sur l'appui des partenaires techniques et financiers, parce que l'État ne finance pas. Alors que les partis politiques sont financés par l'État malien.
Les médias jouent également un peu leur rôle et c'est une des occasions pour lesquelles on a tenu ce débat. Alors, aujourd'hui, il y a Yaya Daou qui demande sur Facebook, est-ce que les élections peuvent être organisées étant donné qu'il y a des Maliens aujourd'hui qui n'ont pas leur carte Nina?
Bon, vous savez, l'histoire de carte Nina, au départ, ce sont les gens même qui n'ont pas accepté de se faire recenser. Ils ont eu peur de se faire recenser. Et parce que d'autres pensaient qu'il y avait d'autres idées derrière. Et je pense qu'à ce niveau-là, même par rapport au taux de participation.
Est-ce que ça ne soulève toujours pas le problème de communication?
Vous savez, il faut aller vers l'inscription volontaire aujourd'hui que d'aller vers l'inscription d'office. Parce que automatiquement, tous ceux qui ont l'âge de voter sont inscrits. Alors que. Est-ce qu'ils veulent réellement aller voter? Parce que c'est ça la question. À chaque fois, on dit le taux est faible, ceci, cela. Mais est-ce que réellement ceux qui sont inscrits veulent aller voter? Parce qu'il faut inscrire réellement ceux qui veulent aller voter. Parce que ça va être difficile que j'aille m'inscrire et ne pas aller voter. Mais si je suis inscrit d'office, il y a des gens qui sont inscrits d'office qui ne savent même pas qu'ils sont inscrits.
Mais certains d'entre eux estiment qu'ils ne vont pas parce que malgré leur participation, la situation n'a jamais changé.
Mais c'est ce qui est très grave. C'est ce qui est très grave. En pensant ainsi, ce serait très grave. Parce que si on veut faire changer réellement les choses, on doit s'investir pour que la cadence soit renversée. Mais ce n'est pas en restant chez soi. Dans tous les cas, on est en démocratie, ceux qui vont aller voter là. Si la majorité se dégage, même pour quelqu'un qui n'est pas bien, naturellement, c'est lui qui va gérer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit se remettre en cause. On doit savoir que la gestion de la chose publique nous incombe à nous tous, nous interpelle tous. Si on veut que les choses aillent, on est dans un système démocratique. On doit pouvoir, en tout cas, convaincre les autres à aller vers ce changement-là. Mais ce n'est pas en restant recroquevillé sur soi-même qu'on peut faire évoluer quoi que ce soit. Donc je pense que tout citoyen est interpellé dans ce sens-là. Déjà que tu acceptes de rester à la maison, ça veut dire que tu as accepté les résultats qui vont sortir des urnes.
D'accord. Des élections truquées, certains s'inquiètent par rapport à cela. Est-ce le cas de l'opposition?
Bon, nous souhaitons que cette fois-ci que Manassa travaille avec honnêteté pour qu'elle ne zappe pas et qu'elle ne coupe pas comme elle veut. Pour faire élire d'autres, peut-être qu'ils n'ont pas la chance d'être élus, parce qu'elle, elle reste toujours dans une position avec ses coups pour tout simplement faire élire souvent. Il y a
les Et concernant la participation des électeurs, quel appel avez-vous à lancer?
Je demande aux Maliens et aux Maliennes de se mobiliser, à tout le monde, parce que c'est important. Et je demande au gouvernement de prendre des dispositions pour sécuriser. Mais je continue à rêver. Mais on verra.
À vous, docteur Ibrahim Sambou.
Bon, il est permis de rêver. Il est permis de rêver, d'espérer que la situation sécuritaire va s'améliorer d'ici là. Et la participation des citoyens est importante. Il faut que chaque personne, chaque Malien se sente concerné par les élections législatives et puis qu'on puisse avoir un taux de participation à souhait.
Des productions, vous en aurez au cours de ce processus de préparation des élections législatives et même pour la couverture des élections législatives. collective. Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. Et je rappelle que nos invités étaient Zoumananti Doumbia de la majorité présidentielle, Nouhoum Togo de l'opposition, Ibrahim Sango, président de l'Observatoire des élections. Je suis Mouhamadou Touré à la régie vidéo et audio, Seydou Ndao et Peting Diara. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.